With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, on est avec Jérémy Détlot. Salut Jérémy.
Merci, salut à tous.
Comment ça va?
Ça va.
Jérémy, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on pourrait te présenter tes...
Moi je suis, on pourrait dire, un comédien, auteur, producteur, humoriste. On va dire ça, c'est les quatre statuts que je fais en ce moment.
T'es rentré dans le métier par le stand-up?
Ouais, c'est par la scène, j'ai commencé par la scène et de fil en aiguille je suis arrivé devant la caméra et de fil en aiguille je suis arrivé à l'écriture et puis maintenant je fais un condensé de tout ça.
Et maintenant tu produis carrément des vidéos.
Ouais.
Parce que pas tout, pourquoi pas.
On a commencé à trois en mode où je faisais avec mon réel et un autre co-auteur et comédien et où je faisais le perchman et tout. Ouais. Et puis on arrive petit à petit avec une équipe de 5, 10 et tout et aujourd'hui ouais, je produis.
T'as un point commun en fait avec un autre de nos invités à l'époque du Boys Club, c'est que t'as grandi à Stein.
Ah, c'est qui?
Comme Navo.
Ah oui, mais c'est à chaque fois on en parle, mais ça c'est trop marrant, les origines ou les villes commencent à créer un lien. C'est-à-dire ouais. Que je l'aimais déjà bien et qu'elle a dit à Stein, je fais waouh, tu connais ma vie, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est que marcher dans cette rue-là, dans ce truc. Et ouais, c'est vrai que ouais, je viens de Stein et à l'époque jamais de ma vie je me suis dit un jour je vais monter sur scène ou je vais jouer devant. Mais ouais.
Comment t'as décidé de monter sur scène alors?
Ben moi déjà, enfin j'ai eu la chance de découvrir une passion très petit qui est le dessin.
Ok.
Donc moi je me prédestinais à 1000%, je voulais devenir dessinateur.
Ok.
Et en plus il y a pas longtemps ouais ça m'a fait rire, j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite pour TF1 où je voulais travailler pour TFU.
Ah ouais.
Ouais, j'avais écrit une lettre, bonjour, j'aimerais travailler j'ai des idées de dessin animé l'innocent. Mais ouais, moi je voulais devenir dessinateur, j'étais à fond dedans et à l'époque je savais pas, enfin je disais dessinateur mais en fait ça englobait le graphisme. En gros, je voulais devenir mais je connaissais pas le terme précis et c'est pendant des vacances d'été où je suis resté pour la première fois tout seul chez moi. Tous mes parents ils étaient en vacances en Guadeloupe et tout. Au début, c'était cool, j'avais la maison pour moi tout seul, je faisais les trucs, je marchais tout nu. Tous les trucs que tu découvres quand tu vis tout seul et j'ai commencé à m'ennuyer. Et à l'époque et tout, je connaissais pas du tout les humoristes. Enfin, même le one man show, ça me faisait chier parce que je me disais, un mec qui parle pendant une heure tout seul, sans décor, sans truc, ça doit être chiant et tout. Et du coup, genre, je m'ennuyais. Je suis allé dans la chambre de ma sœur, j'ai pris un DVD qu'elle avait parce qu'elle était un peu déjà dedans. C'était les petites annonces des lycéens.
Ah ouais, ouais.
Et j'ai pris le truc. Ils avaient l'air d'avoir des bonnes têtes de cons et tout. J'ai mis, et j'ai trop rigolé et tout, et Franck Dubos dedans, il m'a assassiné.
Ouais.
Et après, du coup, je me suis intéressé à lui, j'ai commencé à découvrir les Pour toi public.
Ouais.
Et, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est? Et après, je me suis dit, attends, mais lui, il me tue de rire, donc peut-être que je vais regarder ce qu'il fait sur
scène. Son spectacle, ouais.
Et j'ai regardé son spectacle, et à la fin du spectacle, vraiment, à la fin du spectacle, je l'enlève les DVD, je prends mon cahier, et je me mets à écrire.
Tu commences à écrire des blagues.
Direct. J'ai écrit un sketch. Je me suis dit, mais moi aussi, j'ai tout, enfin, il raconte tous ses traumatismes. Et moi, j'avais vécu tellement de traumatismes. Je me suis dit, mais tac, j'ai pris mon cahier. J'ai écrit mon premier sketch direct après. Et,
T'avais quel âge?
J'avais, je crois, je devais avoir 17.
Ah ouais.
17 ou 18, ouais. Dans ces eaux-là, ouais.
Donc t'as, ouais. Mais c'était, alors, t'es né en 87, c'est ça?
87, ouais.
D'accord. Début des années 2000, c'est ça?
Ouais, je crois, je sais plus, je sais plus si c'était on était comme on était dans le monde gentil. Il y a eu une scission. Il y avait un monde innocent. Après, il y a eu un événement tragique. Mais je crois que c'était avant l'événement tragique, je crois. Je suis plus sûr. C'était après
l'événement. C'est quoi l'événement tragique?
C'est le 11 septembre.
Ah, c'est le 11 septembre.
Ouais. C'est le 11 septembre. Non, je crois que c'était après. Ouais, c'était après.
Ok. Le thème du podcast, c'est vraiment la masculinité. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, c'est quoi pour toi être un mec?
Ouais, très bonne question. Non, c'est pour moi. Enfin, plus je grandis et plus je me rends compte que je pense que pour moi être un mec, c'est assumer ses envies. Ouais, je pense que ouais, c'est assumer ce qu'on est, ses envies. C'est pas genre être musclé ou ou autre, je me rends compte qu'en vrai, c'est dur d'assumer ce qu'on aime et ce qu'on est. Je crois que c'est un des trucs les plus durs à faire.
Donc aujourd'hui, t'as 33 ans,
ouais,
c'est ça?
33, ouais.
J'imagine que t'as un peu plus de bouteilles où tu te dis, OK, en fait, je peux assumer qui je suis.
Ouais.
T'as la sensation que si on repart un petit peu dans ton enfance, etc., ça a été compliqué pour toi justement de te dire, bah, en fait, c'est ça que j'aimerais être ou que j'aimerais montrer de moi. Et je peux pas parce que, en fait, j'ai l'étiquette, faut que je sois un mec.
Non, c'est, en fait, j'ai la chance et en même temps la malchance, de ne pas avoir grandi en regardant la télé, les clips.
Okay.
Etc. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire, par exemple, un truc tout con, mais par exemple, Ophélie Winter, son premier clip, je l'ai découvert 15 ans, 20 ans plus tard. Genre, tous les clips que les gens, enfin, même dans le style, quand je dis malheureusement, ça veut dire, quand je voyais les gens bien habillés autour de moi, c'est parce qu'ils s'influençaient de ce qu'ils voyaient dans ouais. les clips et tout. Et moi, miskin, j'avais, comme je voyais pas le truc, c'est-à-dire, je pouvais mettre, des joggings à pression avec une chemise. C'était mon look. Et je croyais que j'étais, parce que j'aimais bien ce pantalon, j'aimais bien cette chemise. Pour moi, je mets les deux.
Ouais.
Et du coup, genre, j'avais pas de modèle. C'est-à-dire que, enfin, je me suis, j'étais en cohésion ou avec ce que j'étais, c'est-à-dire que j'avais pas de point de comparaison à me dire en fait si je fais ça bah je fais pas comme les modèles donc non c'est plus pour me dire enfin j'ai commencé à sentir la différence vers le lycée. Vers le comment les mecs ils parlaient des meufs, comment je voyais déjà mon point de vue il était différent parce que moi en plus comme ma mère elle s'occupait de centre aéré
ouais.
et elle m'emmenait avec moi du coup genre comme j'étais le petit garçon tout mignon c'est-à-dire les meufs elles me prenaient en mode j'étais une peluche donc déjà ça m'a influencé de ouf c'est-à-dire mes lacets ma première bulle de chewing-gum c'est des meufs qui me l'ont appris c'est
ma première bulle de chewing-gum
ouais j'avais un rapport avec les filles déjà différent
Plus apaisé, tu penses que les potes?
Ouais, c'est sûr. Par exemple, moi, j'ai toujours été à l'aise avec les filles. Et, entre guillemets, ce pouvoir à l'époque, c'était les mecs qui, gays, genre le meilleur ami gay qui était ouais. aussi. Et moi, je me disais, soit je suis un mec 2.0 avec truc, parce que, ouais, non, j'étais toujours à l'aise, parce que je voyais mes potes, genre, juste parler à une fille, genre, c'est en mode, ça se compressait, ça te rougissait, alors que moi, genre, j'y allais, quand j'avais pas de sentiment pour la fille, ouais. genre j'étais vraiment à l'aise. Après dès qu'une fille elle me plaisait c'était encore autre chose. Mais les filles, mes potes que ce soit qu'ils étaient attirés par une fille ou pas, ils avaient toujours ce recul ou cette pression que tu peux avoir quand t'es petit fille garçon.
Et ça te vient de là, tu penses, du fait d'avoir été au contact avec des filles
ouais.
quand t'étais plus jeune, c'est ça?
Ouais, je pense que c'est ça où je me dis tu peux être comme tu veux, il y a pas de ça va pas te mettre des barrières ou autre. Donc, je pense que, ça m'a pas, le fait d'avoir grandi dans cette ambiance-là, ça fait que aujourd'hui je suis comme ça, ouais, je pense.
Et t'avais plus de mal, tu penses, à assumer qui t'étais quand t'étais au lycée, par exemple? Ou tu parlais de fringues tout à l'heure?
Ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, je crois que je suis pas dans les codes. Je suis pas dans les codes parce qu'en plus, ouais, je l'ai dit sur scène, mais à un moment, ouais, par exemple, les baggies. Moi, les baggies, j'avais pas capté. Le baggy, ouais, c'est fait pour que tu le dis. Si ça tombe en dessous de tes fesses, ça s'appelle un baggy. Et moi, je le remontais jusqu'au niveau du nombril. C'est là que je me dis, est-ce que j'avais vraiment des potes? Et je ne sais pas parce que personne m'a rien dit. Personne m'a rien dit. On m'a laissé avec mon look. Mais je me disais, ouais, j'observais et tout. Genre, j'observais autour de moi et je voyais ouais les mecs ils avaient pas le même approche que moi, pas le même truc et je me suis dit je suis pas dans les codes et ouais pendant un moment il fallait se battre pour s'imposer comme j'étais et pour pas genre ouais me faire marcher dessus où on me dise toi t'es pas comme ça donc tais-toi ta gueule non c'est en mode
et ça se caractérisait comment fallait en venir à la violence physique ou
non c'était plus des gros débats de parole où ça se dit non, c'est pas parce que je pense pas comme ça vis-à-vis des meufs ou autres que ça fait de moi quelqu'un de plus faible ou de plus
ouais. De fragile.
Ou, ouais, de fragile, ou carrément, on te dit, ouais, ton orientation, elle est comme as, ou.
Attends, oui, t'es forcément homosexuel.
Ouais,
si,
genre,
si
ouais,
tu
si tu respectes une meuf, en gros, c'était, j'avais l'impression, en gros, si tu cherches pas à coucher avec la meuf, ben, c'est-à-dire que t'es gay. Alors qu'en fait, ça veut juste, enfin, c'est juste du respect, du, ouais, c'est du respect, c'est tout. Genre, et que, ouais, genre, t'es pas obligé de absolument, vouloir coucher tout de suite avec une, avec la meuf que tu rencontres parce qu'elle te plaît et tout. Et enfin, même, je l'ai dit dans mon spectacle. Moi, ma première fois, je l'ai fait très tardivement. J'en rigole avec ça et tout. Je l'ai fait à 26 ans. Mais c'est pas par, comme je dis, c'est pas parce que je galérais, parce que je suis moche et tout. Vous avez bien vu comment je suis mignon.
T'es beau gosse.
mais ouais, non, je dis ça sur scène et c'est juste par choix et c'est même pas un choix religieux ou autre. C'est juste que, et un côté pas romantique, mais presque, oui, même carrément. Mmh. Et qui fait
il y a
que,
un petit côté fleur bleue,
ouais,
quoi,
genre un côté où c'est pas ma course, c'est pas la course, et que j'assume, et que ce truc là je l'ai quand j'ai décidé, parce qu'au bout d'un moment quand tu vas dans des soirées ça parle de ça, genre toi t'es en mode oula, on va me poser la question, ouais, est-ce que je passe sous le radar ou pas et tout, et quand des fois je me disais je voulais assumer ce truc que je l'avais toujours pas fait et tout, on me croyait pas, on me disait il se fout de notre gueule lui, genre truc, et genre ouais, j'ai une anecdote comme ça où c'est j'étais à une soirée et une fille qui vient de me parler, elle me fait ouais et je sais pas pourquoi je lui dis non, je l'ai jamais fait, on en vient à parler de ça, je lui dis non, je l'ai jamais fait, et à l'époque j'avais un sort de collier qui ressemblait à un chapelet, sauf qu'au bout d'avoir au lieu d'avoir une croix, j'avais une dent de rat, hein, ça n'a rien à voir. Et là et pour blaguer, je lui fais mais pourquoi tu l'as pas fait, et je sais pas, pour blaguer j'ai fait ben parce que je suis prêtre. Elle m'a cru. C'est-à-dire que j'ai passé la soirée et à un moment, je suis tellement allé loin dans la mythomanie, elle a commencé à vraiment se confier et du coup, à me raconter ses trucs et moi, je lui donnais des conseils vis-à-vis de mes conseils de moi, de mec sage. Et du coup, ouais, j'ai passé la soirée, une meuf, elle croyait que j'étais un prêtre.
Waouh! Mais il y a tellement de choses à dire dans ce que tu viens de me balancer là depuis 5 minutes. Non, mais alors, le premier truc que je voulais te demander, c'est comment tu faisais pour assumer le fait que tu respectais les filles vis-à-vis de tes potes, parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est un truc qui est difficile, tu vois, t'as tendance à vouloir rester dans, à vouloir te foutre dans le moule, quoi, tu vois, et vouloir suivre.
Après, c'est pour ça, je pense que si parce que je suis un mec très réservé, et le dessin, en fait, c'est-à-dire que moi, au lieu d'aller jouer en bas au foot, etc., je pouvais rester 6 heures à reproduire un dessin, un manga que j'aimais bien, une image que j'aimais bien. Donc le côté je suis le groupe, je l'ai jamais eu, c'est pour ça que je pense aussi que je fume pas. Ouais. Et après je pense aussi il y a un cas, enfin ma mère elle est très caractérielle et tout, et le côté où on m'impose des trucs, c'est très dur de m'imposer des choses, genre je suis une tête de mule. Donc suivre le moule ou suivre le truc, ça a jamais été dans mon caractère ouais, le côté je pense aussi le dessin fait que j'ai rencontré mes meilleurs potes que je connais jusqu'à aujourd'hui, Alexandre et Alexis, s'ils m'écoutent. Mais du coup, on était un peu pareil. Du coup, j'avais la chance d'avoir un groupe où on était tous un peu pareil.
Est-ce que vous étiez un peu les nerds au fond de la classe, c'est ça, qui étaient un peu dans leur
non, on
dans
était
leur
plus,
dessin
on était et... plus quand je parle avec par exemple les rappeurs Big Flo et Oli, ouais, où ils disent normal. Et je me dis à l'époque, on n'avait pas ces mecs, ces rappeurs qui représentent les mecs normaux. Genre, on est ni des bouffons, ni des wesh, on est des mecs. On se fait pas marcher dessus, mais on n'est pas aussi des mecs qui vont embêter les autres. Ouais. On est des mecs entre guillemets normal. Et on était plus ce groupe-là. On avait notre groupe, on avait des copies. Enfin, certains plus, nous on galérait. Mais ouais, non, on parlait avec des meufs. On était plutôt appréciés et tout. Mais on était notre petit groupe. Mais ouais, on était en mode normal. Mais c'est vrai que par rapport aux gens populaires, on n'était pas les plus populaires. C'est pas nous, on va venir. Non, mais ça va, on n'était pas non plus considérés comme des cassos, mais on était, on était dans notre petit groupe, dans notre coin, tranquille.
À peu près au milieu, quoi.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, vraiment, 12. 12. La moyenne.
Sur 20. 12. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview.
Ok, je comprends mieux. Par rapport au fait que tu disais que
t'as attendu très longtemps avant de faire ta première fois et tout, que c'était un truc qui était compliqué pour toi à assumer publiquement quand t'étais... Je pense que c'est plus dur à assumer à genre à 15, 16, 17 ans quand tout le monde se...
Ouais, genre en fait c'était genre il y avait un film qui nous faisait trop rire avec mes potes, c'était 40 ans toujours puceau.
Ouais.
Et plus on grandissait, plus on s'approchait de la jauge et on se disait ouais, il y avait une sorte de petite pression, on se disait c'est normal ou c'est pas normal, c'est normal, c'est pas normal, parce qu'il y a eu cette période où tu voulais mais t'étais maladroit, j'étais trop maladroit. Mais en fait ouais, je pense le plus dur ouais, c'est plus vers le 18-19, où là, vraiment, bah, c'est une question qui revient tout le temps, parce que, au bout d'un moment, tu passes à un stade où, ouais, les relations hommes-femmes, même en général, la sexualité, où, ben, là, tu commences à devenir vraiment un adulte, où c'est un sujet qui est là, qui est bien présent. Et, à partir de là, ouais, c'est vrai que je commence à me dire, putain, c'est normal mon délire ou pas. Et en vrai de vrai, je pense que j'ai commencé vraiment à assumer à 1000%. C'est avec le Whoop, je pense.
Ouais.
Avec la note, parce que en fait, enfin la notoriété.
Oui, je l'ai pas dit au départ. Enfin, tu l'as pas dit non plus. Ouais.
Mais oui, j'ai fait partie du Whoop. C'est pas un truc que j'ai honte. Non, j'ai fait partie du Whoop. Et en fait, je me suis rendu compte.
Le Whoop, pour les gens qui connaissent pas, juste
ouais,
un
ouais,
mais
avec
c'est
le
un
Whoop,
collectif.
En fait, c'est un collectif d'humoristes où on a créé une chaîne YouTube et un spectacle qu'on a tourné pendant quasiment 4 ans et demi. On a fait tourner dans toute la France. On a fait le Bataclan, le Grand Rex. C'était vraiment une grosse aventure. Et la chaîne, ouais, aujourd'hui, ouais, cumule plusieurs millions d'abonnés. Enfin, je sais plus combien de vidéos qui cumulent plusieurs millions aussi de vues. Et ouais, non, c'est une de mes plus belles aventures à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, ben vis-à-vis de ça, enfin, ça a acquis une bonne notoriété et qui fait que ouais, genre des complexes et des questions même vis-à-vis des filles que la notoriété efface totalement, genre tu peux arriver, ça fait bonjour, t'as 5 filles. Et du coup je me suis dit en vrai oui, là je pourrais le faire facilement, mais j'ai pas envie, je sais pas ce que j'attends, mais j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui ou n'importe quoi, pas forcément avec la femme de ma vie, genre je vais me marier etc, mais j'attendais un truc qui me dit go. Et à partir de là, quand j'ai vu qu'en vrai si je voulais je pouvais le faire, ben j'ai commencé à assumer, parce que si je veux je le fais. Et là, je l'ai assumé pleinement en me disant, enfin, j'avais plus peur de le dire.
Ok.
De le dire, mais ouais. Pendant une période, c'est vrai que c'était un peu, je le dis sur scène, mais j'étais un peu en mode en cachette. Genre, il fallait s'inventer une vie. En fait, ouais, je l'ai fait il y a longtemps, mais c'était dans une tente. Et après, il faut se rappeler de son mytho pour le sortir. Mais t'avais pas dit c'était un truc. Là, c'est dans un mobilhome. Genre, il faut changer les. Mais ouais, non, il y a une période où j'étais un peu en cachette. Et puis après, à un moment, j'ai totalement assumé. Je me suis dit, ouais, je fais ce que je veux, en fait.
Et le jour où c'est arrivé, alors sans rentrer dans les détails, ouais. Mais en fait, qu'est-ce que t'attendais exactement avec le recul pour faire cette première fois? T'attendais quelqu'un pour qui t'avais vraiment des sentiments, c'est ça?
Non, c'est en plus même pas. C'était plus une sorte de mélange de complicité, d'attirance physique et de sympathie, et de ouais c'est cool, enfin il y aura, parce que des fois il fait ouais, moi la première fois j'ai eu mal, j'étais pas truc et nanana, enfin plein de, t'entends toujours des trucs un peu bizarres et tu dis ouais, ça devait pas être agréable ta première fois et tout, et moi ouais non, ça s'est fait naturellement et ouais, c'était un mélange de complicité, de timing, de ce soir-là, c'était en mode détente, je sais pas, il y avait un pressentiment, il fait oh, je crois que je vais le faire ce soir, mais je suis pas sûr. Et je me rappelle et tout, quand, enfin, en plus, je l'avais dit à la fille, et elle voulait pas me croire. Elle me dit, mais non, tu te foutage de gueule et tout, t'as vu toutes les filles.
Oui, le mec fait partie du Whoop,
ouais,
forcément.
Ouais, genre, toutes les filles qui te courent après, genre, toi, tu l'as pas fait, ouais, c'est ça. Et après, je lui ai fait, non, vraiment et tout, et du coup, après, elle a capté que non, je mentais pas. Mais,
Et tu finissais pas avec le temps par peut-être fantasmer le truc ou venir y mettre plus d'importance que ce que c'était au final, non? C'était pas ça aussi,
non.
Peut-être qui te bloquait un peu, enfin, ou qui te foutait la pression?
Non, c'est pas.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où tu te dis, bah, pendant 10 piges, enfin, ça fait à peu près 10 ans, donc à partir du moment de 16 ans, ça commence à fricoter avec les potes. Mais tu vois, pendant 10 ans de ce fait-là, c'est un truc qui, j'imagine, que tu dois idéaliser quelque part, quoi, tu vois?
Bah, au début, c'est vrai, je me disais, ouais, la première fois, c'est important, du coup, faut respecter. Et en grandissant avec les récits des autres, plus les pornos, tu fais, c'est pas si sacré que ça. Et non, à la fin, c'était plus un. Ouais, je me demande quand ça va arriver. Est-ce que. Ouais, c'était plus, je me disais, Je me demande quand ça va arriver. Est-ce qu'il ne serait pas temps de le faire? Est-ce que c'est normal d'attendre aussi longtemps? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le fasse pour dire que je l'ai fait? Mais,
ouais.
Mais sans plus me mettre la pression et sans me dire il faut que ce soit génial, il faut que ce soit magique. Non, je me suis juste dit quand ça arrivera, sans me mettre la pression. Ouais.
Et comment ça s'est passé? Alors, dans quel état t'étais après ta première fois? Tu vois, moi, j'avais 17 ans. Ouais. Et en fait, je sais pas, ça m'a transcendé, en fait. Et je sais pas, mais je pense qu'à 17 ans, c'est cool, ouais. Tu vois. Je sais pas quand tu le fais à 26 ans de ce fait.
En fait, je me suis dit, en plus, moi, c'est trop marrant parce que pendant que je le faisais et tout, je me suis dit, wow, je suis en train de faire comme ce que je voyais, et genre en mode, à un moment, enflammation, failli rupture du frein.
Oh! C'est pas bon ça.
J'ai failli et ça m'a calmé. Je me suis dit, tu te calmes, garçon. Ouais. Genre, truc, à côté, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'accident. Mais je me suis dit, ah oui, donc direct, genre, comme si les destins me disaient, tu fais attention, hein, ça peut être dangereux. C'est bon, t'as un truc, mais attention quand même. Mais non, je me rappelle en repartant de la fille et tout, en prenant le métro, je faisais. Ah yeah, je l'ai fait. J'ai fait wow. Ah yeah, je suis un homme. En tout cas, je pense que j'ai atteint un truc que tu fais quand t'es un adulte, en tout cas. T'as une certaine maturité.
Ouais.
Et je pense que ça m'a débloqué un truc un peu. Une case un peu où il y avait du brouillard.
Ouais.
Ben maintenant, ben c'est bon, je connais. Genre, et j'étais en mode. Je pense que ouais, ça m'a. Pas j'ai bombé le torse, mais ça m'a fait. Aïe, j'ai fait, je connais. Ouais, je pense que ça m'a un peu validé une partie de moi. Je dis pas que c'est ça qui a fait que j'ai dit ça y est, je suis un homme, mais je pense que ça a contribué à dire aïe, ben ouais, genre j'ai coché cette case.
Non, mais c'est cool, je trouve que t'es réussi à passer outre la pression, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une vraie pression sociale aussi sur toi et ça doit être dur. Je pense que c'est dur pour les filles. Qui elles aussi peuvent être vierges tardivement entre guillemets, mais je pense que pour les mecs,
les mecs c'est vraiment plus dur. Hein. Enfin, en tout cas d'assumer. Et le pire c'est quand je le raconte. Une fois je sortais de scène, je raconte ce passage où je le dis, et des fois les gens je joue avec ça parce que les gens ils pensent vraiment que je me fous de leur gueule quand je dis ça. Et il y a un mec qui vient me voir, il me fait ouais merci mec et tout, genre j'étais comme toi et tout. Et c'est vrai, ouais, on te met une pression comme si tu dois le faire. Et moi aussi, je l'ai fait très tardivement et tout. Et ça fait plaisir de voir. Et en vrai, en grandissant, je me rends compte que je pensais vraiment que j'étais un extraterrestre. Et en fait, en plus je grandis, plus je me dis, enfin, on est plusieurs en fait à pas vouloir le faire juste parce que la société dit à cet âge-là, dans ces eaux-là, tu dois le faire absolument. Mmh. Et autres, je me rends compte qu'on est plusieurs dans les témoignages que je reçois, dans les MP, dans les DM que je reçois et tout. En disant, ouais, ça m'a trop fait rire, ouais, c'est trop moi et tout. Et du même temps, on est plusieurs et c'est ça, enfin, avec la magie de la scène, de dire que tu crées un club ou en tout cas, tu rassembles les gens qui ont la même mentalité ou le même délire que toi, quoi.
Ouais, ouais. Enfin, je trouve ça vraiment très cool de ta part, que tu vois, que t'aies réussi à garder cette ligne directrice qui était, bah, en fait, je respecte les filles et je vois pas pourquoi.
Ouais,
à l'adolescence, quoi, tu vois, jusqu'à tes 26 ans où tu te dis, bah, en vrai, j'ai envie de garder le moment le plus intact possible, quoi, c'est cool.
Ouais, je me suis dit, ouais, je me
suis dit. C'est un peu old fashion, quoi, tu vois, je trouve que c'est au meilleur sens du terme, quoi, tu vois,
ouais,
ce que je veux dire.
J'ai pas calculé comment j'allais le faire. Après, c'est vrai qu'une fois après que je l'ai fait, après, j'avais plus de barrières. J'ai enchaîné les expériences pendant un bon moment, j'ai tout rattrapé d'un coup. Mais avec le ouf, ouais, j'ai tout rattrapé d'un coup. Mais toujours dans un respect. Par exemple, ouais, j'ai jamais menti pour coucher avec une fille, par exemple.
Mm-hmm.
Genre, j'ai toujours dit, bon, moi, je veux ça, ça irait pas plus loin, basta. Et en tout cas, je suis honnête avec toi, donc c'est à toi de. Et du coup, genre, c'est un peu plus facile. Je pense que c'est même un conseil que je dirais. Être honnête, ça aide. Et du coup, ouais, genre, j'ai eu une petite période comme ça où j'enchaînais. Et puis après, un moment, je me suis dit, bon, ben, oh, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais me recalmer. C'est pas mon délire, en vrai, de courir après ça, avoir 100 000 filles à gauche, à droite. Du coup, je me suis calmé. Et puis après, j'ai repris un rythme normal, on va dire. Mais ouais.
Ok, c'est intéressant. Le truc que tu me disais au tout début, où tu disais que tu avais vu Franck Dubosc la première fois, et tu disais, putain, lui, il raconte tous ses traumatismes sur scène, moi aussi j'ai des traumatismes et j'ai envie de les raconter.
Ouais.
Alors, je suis désolé, mais j'ai jamais vu tes premiers shows.
Ouais.
Enfin, je pense qu'on se connaissait pas à l'époque, mais en fait, tu parlais de quoi dans ces...
Bah, en fait, je parlais, par exemple,
dans tes premières blagues.
Par exemple, la toute première fille à qui j'ai avoué qu'elle me plaisait, la toute première, hein, c'est-à-dire la première démarche où t'as peur, où tu vas la voir, tu prends le truc et tout, tu vas lui dire, tu me plais et tout. Tu veux sortir avec moi? Elle me dit, non, j'aime pas les noirs. Franchement, comment tu fais, dans la vie, tu commences comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire de trucs? Et en plus, et après, plus tard, elle est...
À quel âge?
Je sais plus, j'étais, c'était une de mes premières colonies. Donc, j'étais en primaire, sûr de sûr. Je devais être en CE1, peut-être 11 ans, 10 ans.
Ok.
Ouais, dans ces eaux-là.
Putain,
9 ans, un truc comme ça. Et genre, je me prends ça, et genre, du coup, ça me fait me questionner sur mon attirance, sur ma couleur de peau. Genre, je me prends tout ça, genre, d'un coup, je fais, ok, d'accord. Va falloir grandir avec ça.
Oh,
et du coup, tu te rends là, tu fais, ah ouais, d'accord. Genre, du coup, ouais, non, c'est que des trucs tout cons, genre, je me rappelle. Un autre truc et tout en colonie.
Ça te fait rire aujourd'hui?
Ah oui, non, ouais.
Terrible.
Non, mais sur le coup, je me suis dit, mais je crois que j'étais tellement pas. Et ouais, en fait, sur le coup, j'étais tellement assommé et j'ai même pas entendu le. C'est avec du recul, genre j'ai pris le. Mais sur le coup, moi, j'ai juste entendu un gros non. Mais j'ai pas pris la dimension du. Alors cette petite, enfin déjà son âge, c'est-à-dire c'est sûrement ses parents qui ont déjà un discours bizarre. Mais à l'époque, j'ai pas pris toute cette dimension. J'ai juste pris. Je me suis pris un stop. Mais j'ai pas analysé vraiment le côté racial du ouais, il y a un problème avec couleur de peau à 9 ans, comme qu'est-ce que c'est. Mais du coup, ouais, c'est avec du recul, je me suis dit, mais en fait, cette réponse, c'était une réponse de fou furieux, en fait, genre. Et du coup, avec du recul, je fais, en vrai, c'est. Et après, aujourd'hui, non, en vrai, ça me fait rire parce que, comme je l'ai dit à l'époque, en plus, je me rappelle, j'avais fait la démarche, j'avais mis un pull blanc, un col roulé, blanc, une petite salopette, un parfum, c'était du. Comment il s'appelle le shampoing? Enfin, oui, du Veldop, je crois, un truc comme. Enfin, ouais. Je sais plus. C'était pas du tout un parfum. C'était un parfum de c'était du bonbon, quoi. C'était ouais. Et je m'étais préparé et tout. Genre, je me dis, c'est tout à l'heure après le goûter. Genre, je m'étais tout un plan et tout. Mes potes, ils savaient que j'allais faire la démarche et tout. Et après, ouais, je me suis retrouvé avec ma salopette à me prendre cette frappe intersidérale. Oui. Mais ouais, non, c'était ça. Puis après, les colonies, elles m'ont bien marqué. Non, c'était en colonie, genre, il y avait les douches. C'était des douches uniques. C'est-à-dire, une fois, c'était d'abord les meufs, toujours. Et après, c'était les mecs. Et du coup, nous, on attendait devant les portes que les meufs elles sortent. Et c'était des grandes portes, mais un peu saloon. C'est-à-dire que ça, ouais, genre en mode saloon. Et tu rentres, tu pousses et tout. Et j'attends devant. Et à un moment, un jour et tout, genre, je suis devant la porte tout devant. Je suis dans mes pensées. Je sens une pression dans mon dos. Et en fait, on m'avait mis un chassé dans le dos. Et je suis rentré dans les douches. J'ai vu toutes les meufs à poil. Et une des meufs que je kiffais n'a pas du tout apprécié. Oh. Elle est sortie en furie. Il est où? Il est là. Et elle s'est mise à me courser. J'ai fait tout le tour de la colonie.
Oh non.
Tellement qu'elle était énervée. Et pour te dire à quel point elle était énervée, je suis revenu au point de départ. Et mon pote qui m'avait fait la blague de me pousser.
Quel connard.
Et il a voulu l'arrêter pour se rattraper. Elle était tellement... Elle lui est rentrée dedans, elle lui a pété le nez. J'aurais s'est mis à saigner du nez. C'est-à-dire, si elle m'aurait attrapé... À l'époque, j'avais pas mon physique d'aujourd'hui. Il aurait fallu que... Mais non, elle était...
T'avais quel âge, là?
Je crois... J'étais un peu plus grand. Je devais... peut-être 12 ans. Dans ces eaux-là, ouais. Et ouais, c'est que des trucs, des anecdotes improbables. Improbables comme ça. Et tu te dis... Ah ouais, genre, quand même... mes dates, ou en tout cas mes crushs, genre, ça a pas été...
Putain, mais ton pote, mais quel connard.
Ouais, non, genre...
Ça, c'est le genre de trucs que les mecs sont capables de se faire entre eux.
Ouais,
aussi,
genre, il était en mode sur le coup, t'es fait... Ah, ah, ah. Mais je fais, non, c'est pas si drôle que ça. Hein.
Non, pas du tout.
C'est pas si drôle que ça, genre réputation, le pervers, non.
Mais elles avaient bien vu que tu t'étais fait pousser, non?
Non, enfin, ça fait... Genre, enfin, t'es juste un mec qui pousse et qui fait un pas, qui observe, genre, le temps que je capte, ce que je vois, ce que j'analyse... Et où j'en suis, qu'est-ce que je fais là, en plus, genre, vu que je suis à des années-lumière, on va me pousser dans le truc, et que les meufs, après, genre, pareil, genre, elles en face, le temps qu'elles analysent, attention, il y a un mec qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous analyser, il y a eu un grand temps de silence avant que les premiers cris.
Oh là là.
Les cris, et après, genre, je ressors, et ouais, genre, ce laps de temps, ouais, genre, Genre, t'as eu le temps de dire ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et il y a un mec qui est rentré nous voir sous les douches.
Chaud.
Ouais, mais avec du recul, en vrai, ça me fait rire.
Oui, c'est marrant ouais. Aujourd'hui.
Mais sur le coup, non, tu te dis, ah non, la furie là qui est en train de me courir après, et non, c'est dangereux. mais avec du recul, c'est marrant.
La vache. Ok, bah oui. Après, tu m'étonnes que tu
dises... j'ai des trucs à raconter sur scène. mais non, non. Mais après, ouais, non, genre... après non quand même j'ai eu aussi des trucs où ça s'est passé plus ou moins ouais bien mais c'était des flirts sans plus parce que j'étais à l'époque j'étais vraiment dans un autre délire de enfin ça le délire de dire hey, regardez j'ai une meuf c'était pas du tout mon délire donc j'étais quand j'avais des copines de l'époque genre miskin genre j'en avais tellement rien à foutre que des fois même elle veut attends mais je suis avec lui mais il s'en fout de ma vie genre
ah oui donc tu sortais quand même avec des filles mais
oui,
en fait
genre c'était plus après au collège ouais okay. Ça arrive au collège il y a eu un premier déclic mais après comme c'était ouais c'était histoire de dire ah j'ai une copine et après genre dès que j'avais la copine j'étais ben je m'en fous
ok
mais c'était ça pendant très longtemps.
Mais tu te sentais obligé d'avoir des copines parce qu'il y avait un peu une pression qu'il fallait
non,
que t'aies des copines.
Non, c'était plus, non, c'était, enfin, physiquement, je me disais, ouah, trop belle.
Ouais.
Mais après, dans le caractère, ben, c'est, en grandissant, tu commences à dire, ben, en fait, ce type de fille, avec cette personnalité, ça me plaît pas, etc. Et en fait, ben, je me posais avec les filles, elles me faisaient pas forcément rire ou, enfin, il y avait pas de point commun ou, genre, j'étais à fond dans les jeux vidéo, dans le dessin, dans les mangas, et, des années-lumière. Et en plus, à l'époque, t'as pas forcément cet aspect de, ah, la personne avec qui je suis, elle s'intéresse à ça, donc je vais peut-être m'intéresser à, ça peut être, enfin, t'es dans ton truc, chacun est dans sa bulle. Et, moi, du coup, à l'époque, ouais, je sortais, enfin, elle me plaisait, mais après, une fois sur place, je faisais, oh, il se passe rien. C'est pas ouf. Du coup, j'attendais, qu'elle me dise au revoir. Et après, je faisais, yes.
Ah oui, t'étais tranquille.
Ouais. Non, j'étais comme ça, ouais.
Comment t'as vécu en étant dans le milieu du stand-up? Et notamment, tu vois, tout l'humour sexiste, etc. Si c'était un truc, toi, qui, à mon avis, te plaisait pas, en plus, d'après ce que je peux comprendre.
Ouais, non, c'est... Enfin, les trucs, les blagues... Enfin, les trucs où ça manque de respect aux femmes, c'est, ouais, c'est un truc où... Moi, ça me fait... Enfin... Non, c'est des trucs où je peux m'interposer ou me dire, ouais, non, ça me... Non, pas devant moi. Mais on va dire...
T'as pas vraiment le choix, tu vois, quand tu te retrouves dans des... J'imagine, t'as dû faire des scènes ouvertes ou des trucs comme ça.
Genre, en fait, c'est... Déjà, il faut ça... Enfin, dans le stand-up, en tout cas. Enfin, moi, je suis arrivé en étant avec des mecs, des failles et tout, etc. Et je me suis rendu compte que tous les humoristes, peu importe qui ils sont, des plus grands ou plus petits, c'est tous des mecs qui ont vécu des traumatismes. Mais tous, je m'en suis rendu compte, genre en écoutant tout le monde, même les plus connus et tout, quand ils discutent avec nous, tu te rends compte, tu fais, mais en fait, on est tous des cassos, hein. Genre, on a tous eu des trucs qui fait qu'on a grandi différemment, genre, qui fait qu'on a une approche différente. Mais au début, ouais, c'est vrai, ben, déjà, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à fréquenter les, parce qu'au début, moi, j'avais écrit mon premier spectacle, mais à l'époque, j'étais très timide et très réservé, donc j'allais pas trop sur les plateaux. Les plateaux à l'époque étaient connus, c'était la Deb Jam du Comedy Club.
Ouais.
Que j'ai intégré beaucoup plus tard, mais à l'époque c'était celle-là et le Pranzo. Ouais. C'était où commençait
Kian, Navo, Bérangère, toute la bande, ouais.
Kief et tout. Et mais à l'époque j'étais beaucoup trop timide.
T'étais dans cette bande-là parce que moi je les connaissais.
Non, moi je connaissais, mais j'observais de loin.
Ah ok.
C'est-à-dire j'étais trop timide et j'ai connu parce que j'ai commencé à sympathiser et avec Bérangère, okay. Qui était devenue une bête de pote. Du coup, j'ai commencé à créer, aller à ces soirées, et du coup, on commençait à parler de, je commençais à entendre parler des différents plateaux et tout. Et après, genre, avec un autre pote qui s'appelle Lenny Nbunga, genre, Il m'a enfin emmené au Chinchman à l'époque où j'ai fait mon premier plateau. J'ai commencé à rencontrer du monde, etc. Et puis après on commençait à me parler différents plateaux et j'ai commencé à aller. Et vu que je connaissais des têtes qui étaient dans ces plateaux, du coup ça me rassurait d'aller à ce truc et j'ai commencé à me mélanger comme ça. Et mais à l'époque ouais, il y avait pas beaucoup de filles. Il y avait très peu de filles.
À chaque fois, genre,
une meuf, ouais, c'est une meuf par plateau. Et en plus, comme il y avait, là, maintenant, aujourd'hui, t'as des plateaux tous les soirs. À l'époque, t'avais un plateau par semaine ou deux par semaine. Et à CPO, ouais, t'avais une fille. Et c'est tout. Et du coup, ouais, c'était vraiment le cliché de, les filles, elles sont pas marrantes. Et ça, aujourd'hui, vraiment, il y a des filles, elles mettent à la main. Enfin, je pense à des gens comme, par exemple, Fadili Camara et tout. Ouais. Genre, tu te dis, sur scène, c'est des monstres et tout, et elle me fume de rire. Mais à l'époque, ouais, t'avais ce truc là. Et en plus, des fois, c'était un peu vrai parce que la fille, comme nous, elle débute, mais on était deux fois plus dur avec elle qu'un mec qui est pas marrant. C'est-à-dire qu'elle, on disait, non, c'est pas marrant parce que c'est une fille, alors que lui, on va dire, il est juste pas marrant.
Et tu gérais comment, toi, quand tu pouvais assister à des conneries pareilles, quoi?
En vrai.
Ça te saoulait, j'imagine.
Ouais, j'ai me saoulé, mais après, je me disais, je les laisse dans leur délire. Après, vraiment, si c'est, on me demandait mon avis, moi, je donnais mon avis, mais je me sentais pas le rôle de dire, les gars, vous devez, je me sentais pas légitime de refaire une éducation. Si t'es comme ça, bonne chance dans ta vie. Ouais. Tu verras où tu vas aller avec ça, mais c'est vrai que non, moi, c'est pas un truc.
C'est un truc que tu fais un peu plus aujourd'hui, avec l'expérience ou?
Non, je vais plus défendre ça, dans mon travail. Ouais. C'est-à-dire, dans mes vidéos, dans mes capsules que je peux faire que sur Instagram et tout, genre oui. Mettre des mini même dans mes fiction audio, mettre des personnages où je vais défendre un certain point de vue, le point de vue qui m'intéresse, mais le faire oralement, frontalement comme ça, pour moi ça marche pas, et c'est trop frontal et ça rentre pas, alors que moi, genre, mes valeurs, ou en tout cas autre que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, par exemple t'as les mangas, genre t'as des trucs où dans manga t'as beaucoup de belles valeurs.
C'est quoi les mangas qui t'ont particulièrement marqué?
Ah, moi par exemple, DBZ est un classique, ouais. Mais le délire de jamais abandonner par rapport à l'adversité, genre peu importe le niveau de l'adversaire, de jamais abandonner, ça m'a appris déjà de pas avoir peur de physiquement de personne. Genre c'est un truc de fou, mais tu te dis des fois, comme je suis une nature un peu douce et tout, mais pendant un moment, je me battais souvent. Justement, parce que j'étais trop, une apparence trop fragile. Donc, on va dire, lui, on va lui mettre la misère.
Ah, tu te retrouvais à...
Surtout au collège. Lycée, gros fighter.
Mais tu initiais pas les fights.
Non, c'était oui. De la défense. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, entre guillemets, que ma mère et mon père, ils m'ont dit, je t'interdis de te battre. Peu importe à quel point une personne peut t'énerver ou autre, mais si on vient t'emmerder, t'as le droit de te défendre. Ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds. Et ça, cette phrase, elle m'a sauvé, parce que comme à l'époque, j'avais un petit physique tout gentil, tout mignonnet, en plus en mode particulier et tout. Je me disais, tiens, lui, il a une tête de bouffon, genre, enfin, en tout cas, il a une aura de on peut le martyriser, alors que pas du tout. Du coup, genre, j'ai une période où je me suis battu souvent. Et à bout d'un moment, ma réputation entre guillemets de fighter, fait que après on m'a laissé tranquille.
Okay.
Mais
fallait quand même à un moment donné cogner, quoi.
Ah oui, oui. Mm. Au bout d'un moment, il a fallu s'imposer, de se dire non, tu me marches pas dessus et je me laisse pas faire.
Mais comment tu fais, toi, qui a été élevé dans une culture non violente justement, pour finir par te dire ok, en fait, il faut que je me batte et faut que j'apprenne à prendre des coups, etc. Enfin, c'est un truc.
C'est pas forcément
naturel, non?
Ouais, non. Enfin, après. Des fois, au fond de moi, je me dis, il y a un hooligan okay. qui sommeille en moi. C'est parce qu'après, je pense que le côté, parce que d'observation, je sais que ma mère et tout, elle a un gros caractère où, par exemple, on fait les courses, il y a un mec qui va vouloir lui manquer de respect et tout. J'ai déjà vu se mettre en colère contre des mecs, des bonhommes et tout, de jamais se laisser faire et tout. Donc déjà, ça m'a, je pense, c'est un truc que j'ai repris derrière. Je pense que les mangas et tout, le délire de pas se laisser faire, de faut se défendre avec les trucs, les films et les séries que j'ai vues et les héros que j'admirais et tout, tu te laisses pas faire, du coup par défaut tu dis là c'est en train de m'arriver comme ce que je regarde, soit je m'écrase Et ça fait comme dans les films, et du coup, le gars, il finit pas bien. Ou alors, ben, tu te défends, et il faut se défendre. Et naturellement, en tout cas, avec mon caractère, mon truc et tout, ben, je me suis toujours défendu. Par défaut, je pourrais pas vraiment l'expliquer du pourquoi, du comment. Mais je pense que tout ce que j'ai dit précédemment, ça contribue un peu. Et après, la génétique, je pense, genre les connexions dans mon cerveau font que, ouais, non, je me suis jamais laissé faire comme ça, quoi.
Ok. Après, on va parler de tes vidéos, mais tu sais, il y a un autre truc, en fait, avec lesquels les mecs ont du mal, c'est l'amitié entre mecs, tu vois.
Ouais.
Et j'ai cru, bah, tu racontes que t'as plein de potes, toi, et notamment, bah, j'avais interviewé Hakim Djemili dans Histoire de succès,
ouais,
qui m'avait parlé naturellement de toi et qui m'avait dit, Jérém, c'est vraiment genre mon ref, quoi. Ouais. Et il y a, on a la sensation qu'il y a un truc entre vous qui est assez particulier, en fait.
Ben ouais, non, franchement, Hakim, comme, enfin, pour ceux qui savent pas, genre pendant la tournée, pendant la période du Whoop, on était
juste pour remettre, mais Hakim Djemili fait
Hakim
partie du Whoop,
ouais, du Whoop,
c'est ça,
si,
vous
ouais,
êtes rencontrés là-bas.
On fait partie des sept membres, et on a vraiment passé, quand je dis H24, 7 jours sur 7 pendant quasiment 4 ans. Ouais, 4 ans vraiment, parce que ça a duré 4 ans et demi, mais vraiment pendant 4 ans, c'était, et c'est pas une expression. C'est-à-dire, on travaillait le lundi jusqu'au dimanche. On était soit en écriture, soit en répétition, soit en tournage, soit en répétition de la scène, ou soit on jouait, on était en tournée. Donc, on était tout le temps, quasiment 7 jours sur 7, ensemble. Et même quand on arrêtait de travailler, après le soir, on sortait ensemble. On allait en boîte ensemble, on sortait, on allait au Paname ensemble. Du coup, on était vraiment H24 dessus. Et Hakim, pendant la tournée, on a fait toute la tournée. On était ensemble dans la même chambre pendant 4 ans. C'est-à-dire que une fois, on a eu des chambres individuelles, et toutes les autres fois, je me rappelle, on n'avait pas kiffé. Et les autres fois, on pouvait avoir des chambres individuelles, on disait non, non, on reste tous les deux. Donc vraiment, non, c'est vraiment un frère de cœur. Genre ouais, non, je le considère, c'est un peu ma meuf.
C'est mes, ouais.
Mais c'est vraiment un lien très très fort. Genre en plus, quand je l'ai rencontré, lui, je me suis jamais dit, lui, ça va devenir un frère de cœur, parce que je me disais déjà, il est chiant, il dit tout le temps frère. Il me saoulait, il me disait frère, genre c'était une expression que j'utilisais pas du tout à l'époque, genre il me disait tout le temps frère, on se connaît même pas, tu m'appelles frère.
Genre bien,
tranquille et tout, et après genre ouais, ça arrivait, et genre dès que j'ai capté que c'est un cassos, il avait les mêmes trucs que moi, genre il y a des délires qui fait que je comprends exactement ses délires, et je me suis dit non, lui, c'est vraiment mon gars sûr. Et c'est vrai que ben du coup avec mes meilleurs potes d'enfant, j'avais déjà ce lien là très fort, et j'ai retrouvé ça avec lui.
Mais alors vous racontez tout, c'est ça?
Ouais, quasiment. Enfin, il connaît quasiment tous mes trucs il connaît quasiment tout, peut-être pas tout par cœur, mes petits dossiers de plus petit et tout, mais quasiment tous les, enfin, ce que je ressens, ce que je peux, dans quel mood je suis dans ce moment et tout, genre il connaît mes plans, je connais ses plans, je connais ce qu'il pense de un tel ou ses plans futurs et tout, et ouais, genre ouais, non, franchement, c'est une vraie belle amitié, quoi.
Et vous parlez vrai, parce que tu sais, il y a un vrai truc dans,
ouais, genre même si c'est chiant, il va le dire, mais genre par exemple des trucs où il me fait, genre lui, il peut me dire là, tu casses les couilles, comment t'es con, genre et pareil, là je peux dire frérot, là en ce moment tu, ah, la tête est gonfle, ouais. La tête est gonfle, attention.
Oui, parce que lui, il a eu un parcours où il est au ciné, il s'est retrouvé nommé.
Et du coup, en mode attention, et encore même pas. Genre, cette période-là, je trouve, il a très très bien, il la gère très très bien. Non, c'est avant. De toute façon, il y a toujours un moment, on a tous eu une grosse tête, attraper la grosse tête.
C'est un passage
normal
et naturel.
C'est quasiment
quoi.
Humain. À ce moment-là, il faut être bien entouré. Moi, je l'ai attrapé d'une certaine manière dans le taf, où je croyais que c'est bon, j'ai plus besoin de travailler. Et la vie, elle te rappelle que si, t'as besoin de travailler. Ouais. Sinon, tu perds. et du coup, on l'a tous eu. Mais par exemple, dans cette période-là où ça va pas bien aller, il va être là pour me dire là, tu pars en couille, frère. Taf. Reviens en réunion d'écriture. Mm-hmm. Travaille, frère, et c'est pas fini. Et pareil, genre lui, c'est à toi, je fais attention, humainement parlant, frère. Genre tranquille, parle bien aux gens, sois plus patient, genre etc. Et on va s'écouter, même si ça fout le seum, on va s'écouter. Mais en tout cas, ouais, ça, c'est très, enfin, dans le métier artistique, surtout, enfin, je pense dans les milieux artistiques, c'est très, très important d'être bien entouré où les gens, ils te parlent vrai. Genre, par exemple, tu montres une vidéo, on va dire génial et tout, alors que la personne, elle pense pas du tout autre ou un passage et que, il te fout un mec qui dit franchement ça me fait rire. Ça veut pas dire qu'il a la vérité un truc, mais dire franchement je trouve que c'est bien rythmé, là je le sens pas. Du coup ça te permet d'avoir ton propre regard et plus un regard extérieur où ça peut ça te permet de faire une sorte de moyenne, de dire en plus comme on a un peu le même humour et moi ce que je vise pas à viser forcément le plus large public, je veux viser les gens qui seront la, qui ont la même sensibilité. Et plus je vais tout aller chercher ces mecs-là, et plus je serai heureux. C'est-à-dire, enfin moi, j'ai par exemple un truc tout con, mais je, dans mes bibles, t'as Malcolm, Scrub et Kaamelott. Et moi, genre, je sais que cette, enfin les gens qui aiment ce genre de truc, c'est les gens qui pourraient potentiellement aimer ce que je fais. Et moi, ce que m'a apporté ces séries-là dans ma vie perso, dans mon genre, ça m'a vraiment apporté du bonheur. Et moi, je me dis, c'est ce que je cherche à faire, c'est-à-dire, je vais aller chercher ces mecs-là qui pourraient être sensibles et dire tiens, je t'offre un divertissement qui va soulager ta semaine, parce que c'est un truc tout con, mais un bon épisode de Malcolm après une journée pas cool qui t'apporte du rire, ça fait du bien de ouf. Et moi, c'est mon objectif et mon but. Et ouais, dans le pour atteindre ce truc là ben moi je sais par exemple Hakim, quand je fais mes vidéos, je sais que si ça le fait rire, ben j'ai déjà gagné des points, parce que je sais qu'il va y avoir une autre partie des gens qui potentiellement pourraient aimer aussi. Donc c'est des curseurs ou en tout cas des indices de est-ce que j'ai bien visé là où je voulais viser. Ouais,
je te vois bien JD dans Scrubs quand même.
Ouais. Partir. C'est vraiment en tout cas le perso, il me parle de ouf, parce que c'est vraiment les trucs des flashbacks, et tu t'imagines, tu pars dans des délires, c'est des trucs que je fais naturellement. Donc quand je suis tombé dessus, je me suis dit wow, ce personnage, enfin en tout cas cet univers me parle de ouf.
Parlons un peu de ton travail, parce que moi je voulais t'avoir dans ce podcast aussi, parce que j'ai la sensation que comme tu dis, en fait, t'assumes aujourd'hui quitter, tu vois. J'ai un peu l'impression que tu t'es un peu émancipé des codes de « Ok, voilà, en tant que mec sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, voilà comment il faut que je me présente. » Tu prends ces trucs-là et tu les tords complètement ?
Ouais, c'est en fait, déjà, avec le... Moi, comment je... La création de ma chaîne, déjà, elle est venue d'une certaine frustration. Parce que, ouais, le Whoop, c'était vraiment une très, très belle aventure et tout, vraiment extraordinaire. Mais quand tu dois faire valider tes idées par 6 autres mecs qui, des fois, n'ont pas forcément la vision que toi, t'es sûr, toi, t'es persuadé que c'est l'angle qu'il faut prendre, c'est trop, trop bien, et que t'as 6 autres mecs qui voient, ils sont pas dans ta tête, qui n'ont pas la vision et qui te disent non. Et du coup, ton dossier, tu dois le mettre dans un tiroir, parce qu'il faut, pour faire le projet, il faut qu'on soit 7 à valider. Des fois, c'est frustrant et tout. Et ouais, il y a eu un projet que j'ai présenté. Et à l'époque, ils l'ont torché, ils ont lu en 30 secondes. Après 2 semaines de travail, jour et nuit, en 30 secondes, ils l'ont pas validé. J'étais tellement dégoûté, je l'ai mis dans mon tiroir. Et après ça, j'ai eu une opportunité de le présenter à un prod. Et on avance sur le dossier. Au bout d'un moment, il me fait ça très très bien, tout se passe bien, genre, bonne écriture, tout très très bien et tout. Et il le présente, et sauf que quelques semaines avant, le diffuseur à qui il voulait le proposer avait signé un truc qui ressemblait à mon truc. Donc je me suis dit, putain, si j'avais pas baissé les bras, si je m'étais pas laissé dégoûter par ça et que j'avais démarché moi-même, j'aurais pu arriver et signer avant, en fait. Et je me suis dit, putain, je veux plus
comme
revivre
Dragon
ça.
Ball Z.
Ouais, je veux plus revivre ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais créer ma chaîne. J'ai envie de créer, et j'avais, plus j'avançais, plus j'avais une envie de, parce que moi, je connaissais vraiment rien à la prod, je découvrais le devant la caméra, mais le derrière, comment t'organises un tournage, c'est quoi une feuille de service, c'est quoi la post-prod, etc. J'apprenais tout ça et j'étais très intéressé. Et j'étais vraiment attiré par et moi, avec le Whoop, c'était plus du sketch, etc. Toutes les parties un peu fictionnées que tu retrouverais dans les notices et tout, ça venait toujours un peu près de moi, parce que j'étais le gars qui cassait les couilles. J'ai dit, moi, je veux une parodie, un truc à ça. Et au bout d'un moment, on me laissait m'amuser, et c'est un truc que j'aime, enfin, que eux aussi, ils aimaient, parce que sinon, on l'aurait pas fait. Mais souvent les parties fictionnées, c'était moi qui les initiais, parce que la fiction, c'est toujours un truc qui m'a attiré en premier, qui m'avait attiré sur le web avec Studio Bagel, qui était plus qui faisait plus des cours de la fiction. Et du coup ça m'a animé. J'ai fait, en fait, j'ai envie de faire de la fiction et j'ai envie de proposer mon univers et mes codes et ma, enfin, ma première opportunité, c'était avec Netflix qui m'avait confié c'était avec Hakim. Je l'avais pris et puis t'as un gros enjeu. T'as Netflix, il dit bon, on aimerait bien que tu nous fasses une promo pour ce truc-là. Tu fais ce que tu carte blanche. Je fais ouais, ça fait flipper. Et j'avais écrit un truc où c'est ouais, c'est un qu'est-ce qui se passe quand tu regardes le dernier épisode sans ton pote, la trahison, et genre avec Hakim, ouais, ça monte en cacahuète. Je me rends compte qu'Hakim, il a regardé le truc sans moi et on part en fight. Je me suis mis des griffes de Wolverine, lui il a mis le katana, ça part en fight. Et c'était ma première expérience, et sur ma chaîne ça m'a confirmé que oh putain, cet univers elle parle. Et sur ma chaîne, ouais, ça a été le Joker. Il y avait un personnage que j'adore, enfin il est tellement éloigné de moi et c'est tellement ouf à travailler que je trouve ça fascinant. Et du coup, ouais, je me suis lancé avec mon premier court-métrage avec Audrey Pirlot et plein d'autres dedans. Et j'ai adoré produire ce truc-là tout seul. Je me suis dit, déjà, je suis capable de le faire tout seul. Et de proposer ce personnage ou cet univers. Parce qu'en plus, l'angle du cours, c'est le, qu'est-ce qui se passerait si le Joker réussissait à tuer Batman? Du coup, tu te rends compte que le gars, en fait, il est en dépression, il a plus rien à faire. Son objectif de vie, c'est clairement le Batman. Et là, il a plus ce truc-là. Et du coup, c'est cet angle-là. Et vis-à-vis de ça, ben, ça a démarré comme ça. Et puis après, ouais, je suis revenu au deuxième cours. C'était les Frères Maléfiques.
Ouais, il faut qu'on en parle de celui-là.
Et c'est l'histoire de deux frères qui dansent le voguing. C'est une danse qui reprend des poses de mannequinat à l'époque, ouais. Qui est née d'un mouvement, qui vient du mouvement gay,
qui est né dans les clubs gays,
et tout. Coup, et à l'époque, le mouvement, c'était, de reprendre le magazine Vogue et de reprendre les postures. Et ça, c'est devenu une danse et ça.
Ça a explosé avec Madonna,
les invités à travailler avec elle. Et en fait, quand je suis tombé sur ces images-là des mecs qui dansaient, et je trouvais ça trop fou. Genre, déjà, je trouvais ça athlétique de ouf, parce qu'ils tapent des trucs. Je fais, mais, parce que des fois, t'as des posiers, la jambe, elle part en avant, le corps, il tombe en arrière, et t'arrives au sol. Je fais, mais quelle confiance il faut avoir en soi pour se lancer dans cette chute et se dire, ça va bien se passer. Et genre, les moves, ils étaient ouf, et même le style de musique est particulier et tout. Et franchement, j'ai été séduit par ce mouvement et tout. Et je me suis dit, mais alors, par exemple, là, si je veux faire danser comme ça, on se foutrait de ma gueule, on me dirait ouais c'est sûr que t'es gay ou je sais pas quoi, et alors que pas forcément. C'est en mode tu peux danser être gay, tu peux danser ne pas être gay, genre c'est pas une obligation de autre et tout. Genre oui, après il faut savoir aussi, il y a toute une esthétique.
Ils sont grimés, ouais.
Oui, ça porte du maquillage, il y a des vêtements, ça
des
porte des vêtements ouais des perruques, des vêtements dits genrés pour les femmes. Et tu dis, par exemple, là, si vraiment je me mettais dans l'ambiance, c'est sûr qu'on se fout de ma gueule, genre, il faudrait que je danse en cachette. Et je me suis dit, putain, ce serait marrant de créer une histoire autour de ça, genre de deux frères qui danseraient en cachette, qui partiraient participer à des concours en cachette. Et ouais, t'as toute une histoire autour de...
On va pas spoiler, parce qu'en plus, ouais, t'as des ruptures, ouais, qui sont vachement marrantes.
Genre, il y a les parents, mais... Mais ouais, allez, je vous invite à aller voir.
Je le mettrai dans les notes, comme ça, les gens pourront aller regarder. Et... Mais en fait, c'est vrai que de ce fait-là, je trouve que tu danses et t'es avec une perruque rose et t'es maquillé de ouf et tout avec ton pote.
C'est vraiment magnifique. Et en plus, lui, c'est trop marrant parce que c'est John Daddy, l'autre comédien. Et lui, on avait sympathisé sur son tournage à l'époque où je sympathisais pour la première fois avec Freddy Gladieux. Et en fait, il faisait une parodie de La La Land. Et en fait, sur le tournage, on disait souvent, ouais, vous vous ressemblez, vous avez un air de faux frère. Et genre, on se mettait chacun de dos et on se retournait d'un coup, on se disait, on se lançait un regard de complicité, genre, on est dangereux, genre, les frères maléfiques. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là qu'on a trouvé sur le tournage, les frères maléfiques. Et j'avais tellement kiffé avec lui, j'ai dit, ouais, un jour, je vais écrire un truc et je te dirai. Et dès que je lui ai parlé de ça, il a trop rigolé et il m'a dit, vas-y, je suis chaud de ouf. Et ouais, on s'est lancé dans cette...
Il y a notamment une scène de baston. Ouais. Là, j'ai la sensation que tu t'es fait kiffer, là.
Ah oui, je me fais plaisir, ça, c'est...
Elle est géniale, elle est génialement faite, ouais. C'est rare d'avoir...
C'est Anthony Faux, le chorégraphe.
Ouais.
C'est un de mes chorégraphes préférés en France. Et lui, c'est le disciple de Manu Lanzi. En gros, enfin, pour moi, il y a cinq gros chorégraphes en France. Et Manu Lanzi, c'est un des mecs qui travaille beaucoup. Enfin, il travaille franchement sur plein de projets. Il a une grande confiance, il a acquis une grande confiance de la part des prods. Par exemple dans la série dans laquelle je jouais Working Girl et tout, c'est lui aussi qui faisait toutes les petites cascades et tout, et enfin je vous invite à découvrir son travail. Et Manu Lanzi à l'époque, enfin Anthony Faux qui a fait les chorégraphes sur ce court métrage, quand je l'ai rencontré, c'est lui qui a fait mon tout premier fight, qui m'a initié dans mon tout premier projet à l'époque qui s'appelait Hyperman et Protector. C'est un truc qu'on avait lancé en crowdfunding, et on avait tourné un petit teaser à l'époque pour ambiancer les gens, pour qu'ils se motivent à nous aider à financer le projet. Et à l'époque, il me disait, il était tout petit, genre, il me disait, ouais, je suis Manu Lanzi, il m'aide et tout, nanana. Et aujourd'hui, maintenant, Manu, sur certains projets, il peut pas, il confie ça. Donc lui aussi, il a augmenté, mais genre, il bosse sur des... fait de la pré-install sur des séries sur Marvel, il a fait un fight avec l'acteur qui joue le Thor. Je me rappelle plus de son nom.
Ah merde.
En tout cas, il s'est fighté avec lui, genre, enfin, il a vraiment un beau parcours, en plus d'être comédien, mais en tant que chorégraphe et tout, c'est lui, et c'est lui qui a, je lui ai dit, ouais, je veux un bagarre un peu mi-transporteur, mi un peu brouillon, mais mi, je veux pas du Jackie Chan, mais je veux du transporteur, et il m'a calé ça, et genre et ouais, moi j'adore les scènes de fight, les trucs d'action, et ouais, ça contraste un peu en se disant enfin que c'est pas parce que t'aimes telle ou telle chose que ça fait de toi forcément quelqu'un sur lequel on peut marcher dessus, quoi.
Ouais, c'est très marrant, je trouve que vraiment j'ai un peu l'impression que ce court-métrage il représente vraiment à la fois en termes d'humour, tu vois, de personnages, de décalage aussi,
ouais.
Tu vois,
enfin ouais, je pense que c'est un des plus complets en termes de ce que je peux proposer. En tout cas, ça donne plein de pistes sur ce que ou dans les directions dans lesquelles je peux aller, quoi.
Ah, je suis d'accord.
Ouais.
T'as aussi tourné Gus.
Ouais.
Mais qui est une web série de ce fait.
C'est une web série. Ben pareil, c'est dans les. Par exemple, ce personnage-là, j'avais une ambiance un peu poétique. En fait, je sais pas, j'étais dans un mood Forrest Gump, Steve Urkel. En fait, pendant un moment, Mr Bean. Pour moi, ces personnages, Steve Urkel et Mr Bean, pour moi, ces mecs-là, c'est clairement les mecs qui ont créé ces personnages, c'est clairement des génies de fous furieux. Et je me disais, putain, c'est fascinant de créer un personnage aussi strange, aussi je suis fasciné par ces personnages où, par exemple, si tu t'assois en face d'eux dans une salle d'attente, t'es ultra gêné parce que tu sais pas comment réagir face à. Et j'ai toujours eu envie de créer un personnage comme ça. Et j'avais un truc qui me trottait en tête. Et j'en parle à Haroun, c'est mon réel, surtout mes projets, c'est lui qui réalise. Et je lui dis, ouais, j'ai une petite ambiance, j'aimerais ça. Je lui envoie des photos. Je trouve une photo d'une mini maquette d'un banc, dans de l'herbe. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la technique de photographie où tu photographies, la prise de vue réelle, et ça ressemble à des maquettes.
Ah, ça me parle.
C'est une façon, genre, t'as l'impression que c'est une photo d'une maquette, sauf que c'est vraiment, des vraies voitures, des vrais trucs, mais c'est une zoomée, c'est un travail sur la profondeur et sur le truc qui te donne l'impression que c'est une maquette, mais c'est vraiment une vraie prise de vue réelle. Et je lui envoie cette photo-là, je suis en train d'écrire un truc comme ça et tout, et je lui envoie le scénar, il me fait, putain, c'est trop beau, il arrive pas à décrire, même moi, j'arrive pas à décrire ce que j'ai écrit. Et parce que je sais qu'on n'arrive pas à donner d'exemple parce qu'on n'a jamais vu ça sur YouTube.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, on n'arrive pas à donner, mais on sait qu'on a un truc. Donc, j'arrive à trouver un générique qui représente, avec la petite mélodie en particulier, ce générique représente l'ambiance qui va se passer dans la série. Et on tourne ce premier épisode avec Hakim qui joue le personnage et ce personnage qui a une perruque introvertie, on sait pas ce que c'est, genre un peu autiste, ouais. Sur les bords, tu dis waouh, comment il a survécu jusqu'ici. Et du coup, on tente ce premier épisode, on est en montage avec Haroun, on finit le montage, on finit la projo, on regarde si tout va bien, et on finit, on se regarde, on fait, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis arrivé là où je voulais aller, mais je pense pas du tout que ça va marcher, ou, mais je suis même pas, genre, je suis tellement content de l'objet, on est, à ce moment-là, on est super content de l'objet, on se dit juste, waouh, on a fait ce qu'on avait en tête, les images que t'avais, genre, Haroun, il a trouvé une esthétique, l'idée du carré, genre, la symétrie, tout ouais, ça, ouais. ça vient de lui, et je lui dis, ouais, en fait, ça correspond parfaitement, enfin, ce que je voyais sans le voir, mais il a vraiment réussi à trouver le vocabulaire de l'image de l'ambiance que je voulais, et on s'est dit bon bah je vais le balancer. Et à l'époque, genre, j'avais été pris dans un tournage, et le jour du tournage, je suis dans ma chambre en train de répéter ma scène, et c'est l'heure de poster la vidéo. Je la poste en me disant elle va bider totalement, mais il y a peut-être des gens qui vont aimer parmi mes abonnés et tout. Genre à l'époque, je faisais par exemple, je pouvais faire 100 000 vues en une semaine. Donc là, je balance la vidéo, je reprends mon texte, je répète. À un moment, au bout de une heure, je rafraîchis et je vois que je suis à 100 000. Je fais, ça bug ou qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois les commentaires et tout, ça bombarde et tout. Je fais, mais non. Et j'appelle Haroun, je fais, t'as vu ce qui se passe là? On est à 100 000 déjà. Au bout de même pas une heure et tout, quasiment. Et on voit, ça prend papa. Et ouais, avec Gus, ça a été première fois que j'atteins le million. Et je me suis vraiment dit, en vrai de vrai, ce que je conseille maintenant, où j'y crois de ouf, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ce que t'as au fond de ton cœur et qui te plaît à toi. Et c'est pas en disant, alors qu'est-ce qui marche aujourd'hui que je peux faire pour que ça marche? Et en fait, le seul truc qui a tout explosé vraiment, sans que je me prenne là, à aucun moment je me suis dit, faut que je fasse ça parce que, ben, c'est Gus, où ça a été totalement un truc que je fais pour moi-même et basta. Et c'est un des trucs qui a le plus parlé, qui m'a ouvert plein de portes derrière, et qui a même donné une légitimité à ma chaîne, vraiment, ou qui l'a fait connaître, qui fait qu'on m'en parle de, aujourd'hui, enfin, on me parle plus de Gus que la carpe. Alors que la carpe, c'est vraiment un truc imbriqué, dans le whoop, et qui était très très fort, et aujourd'hui, on m'appelle plus Gus que la carpe.
Wow.
Donc, c'est un truc où je me suis dit, ah, lui, il a fait son job.
Mais c'est cool.
Ouais, non, je suis très content de ça, et en plus de ça, c'est vraiment, je trouve ça trop cool d'avancer avec un truc qui marche, mais un truc qui te plaît, parce que des fois, enfin, j'en ai déjà rencontré des youtubeurs qui avancent avec des trucs, mais ils sont pas heureux. C'est juste, ils font un truc qui marche, ça fait des vues.
Bien sûr.
Mais ils sont pas épanouis. Et ça, c'est un des trucs que je fais jamais de ma, enfin, si je dois tomber là-dedans, ben, je repars dans le graphisme. Genre, je veux surtout pas faire des trucs qui me plaisent pas, ou que, enfin, non, j'ai dit, enfin, c'est toujours un truc d'assumer des univers ou des scénars, des trucs, tant que ça me plaît, je fonce.
En fait, c'est marrant parce que si on reprend un peu ton histoire quand t'étais ado et tout, tu vois, où déjà il fallait que t'assumes un peu ta différence entre qui par rapport à tes potes et tout, je trouve que ça, c'est une belle leçon en fait, tu vois.
Ouais, c'est un, je sais pas si c'est du coup ce parcours-là qui fait que j'ai la même démarche dans mon travail, mais c'est vrai que, parce que des fois, ouais, genre, pendant un moment, ouais, j'avais des trucs où je me disais, bah, ça, c'est ça qui marche. Et je sais pas si ça va marcher. Par exemple, la fiction, c'est un truc très dur sur YouTube pour exister. Et est-ce qu'il faudra pas plus que je parte dans des challenges et tout? Non, pas, je dis pas que c'est plus nul ou autre. Non, c'est, pour moi, il faut de tout. Et il y en a, ils le font très bien et tout. Mais est-ce que moi, genre, j'en consomme et tout. Mais est-ce que moi, ça me fait vraiment plaisir? Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça? Ben, la vérité, c'est que non. Ou alors, il faut que je trouve une manière de me l'accaparer, de le détourner pour que ça me parle, mais tel que je le vois et sous la forme que dans laquelle ça marche, moi je me vois pas faire ça. Donc je me suis dit bah en fait je vais partir dans une direction qui me plaît, et puis après on verra, et puis tant pis, hein, en fait je me suis, en plus ça a été très dur le lancement de ma chaîne, dans le sens où quand tu sors d'une chaîne qui a des millions de vues, qui a des millions d'abonnés, et que tu repars sur une chaîne, t'as 10 000 abonnés et que tu fais que 1000 vues. Mes premières vidéos, c'était vraiment, je faisais des parodies de podcasts, je détournais les codes et tout. C'était à ma sauce, c'était un podcast à ma sauce. Et mais je faisais pas beaucoup de vues, mais je me suis dit, je me rappelle, je donnerai pas son nom, mais il me disait, ouais, t'as pas honte, enfin, tu fais des millions de vues et là, genre, tu fais que 1000 vues, que les prods ou les marques, elles vont dire, c'est un peu la honte. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais souri. Parce que dans ma tête, je savais très bien où j'allais. Je fais, t'inquiète pas. Genre, au moment où il m'a dit ça, parce que c'est vrai que c'était un truc que je me questionnais, mais le fait qu'on me le dise ça avec un peu un air méprisant, je me suis dit, t'inquiète pas, parce que je l'ai déjà connu, ce discours-là. Je me rappelle quand on m'a dit, quoi, tu t'associes avec des mecs qui viennent du web? c'est dégueulasse, hein, ils font du web, ils ont rien à faire sur scène. Mais j'ai fait, ouais, mais sauf que moi, genre, humainement, je les aime bien. Il y a un très bon délire. À l'époque, j'étais dans la troupe du Jamel. Et j'avais un pressentiment qui me disait,
Oui,
c'est comme à l'époque, le cinéma, VS la télé. Ouais. Et là, c'était un peu ce truc-là. Ben, aujourd'hui, c'est qui a inventé un modèle économique entre, parce qu'avant nous, le délire de la transformer des vidéos en scène, en concret, en déplacement, ça existait pas. Mm-hmm. Et c'est le Whoop et Norman, on a démontré qu'en fait, tu pouvais transformer le numérique en vrais gens. Mm-hmm. Et du coup, genre, t'as commencé à avoir aujourd'hui, t'as tout le monde qui fait ce modèle, faire des vidéos. Pour amener dans la
des gens à acheter un billet quoi.
Mais à l'époque les gens se foutaient de notre gueule, genre ils se moquaient de nous. Et aujourd'hui on m'a redit ça par rapport à ma chaîne, j'ai fait c'est pas grave, je sais que moi je crois au travail. Je vais travailler aujourd'hui, je suis bien avec ma chaîne, je travaille, enfin je monte ma société de production, du coup je suis content.
Hein.
Mais c'est vrai qu'au début il faut avaler son ego parce que tu te dis je repars de zéro et il faut repasser par le peu de vues et les potentiels moqueries, quoi.
T'as inventé un rappeur en slip aussi.
Non, mais ça, c'est...
mais c'est pareil, tu vois, tu prends des codes qui sont pour moi des codes ultra masculins, quoi, tu vois, parce que le rap, vraiment... T'as inventé un rappeur violence.
C'est couteau voyou. Mais ça, c'est... il est né quasiment presque dans la même période que Gus.
Ouais.
C'était à l'époque où... C'était dans une période où j'étais en train d'analyser ce qui se passait au niveau du rap. Il y avait un truc où il y a un phénomène, je fais, putain, le rap est en train de... C'est plus le... Le rap est en train de se transformer, il y a un truc... Il y a une émergence d'un style de rap qui me faisait rire, genre... Et en fait, ouais, Couteau Voyou, ça vient d'une déclinaison, une parodie de Kalash Criminel. En fait, Couteau Voyou, il est nul parce qu'on m'avait envoyé un coffret pour une avant-première. Et par rapport à ce film, il y avait une scène où il y a des mecs cagoulés. Et dans le coffret, dans le truc qu'on m'a envoyé, il y avait une cagoule. Et elle est, quand je reçois le colis, à ce moment-là, je suis torse nu chez moi. Et j'ouvre la boîte, je fais, oh, il y a ça, et je prends la cagoule et je la mets. Et je fais, oh, c'est trop marrant, je fais Kalash Criminel, et je suis là, torse nu, je fais, putain, genre, je vais essayer de parodier, et je me dis, putain, comment je pourrais parodier Kalash Criminel? Il faudrait que je vois le curseur et je descends tout. Je fais, qu'est-ce qui fait plus pitié à part une Kalash? Un couteau, criminel, qu'est-ce qui a la même signification, mais qui fait pas du tout peur? Voyou, ça fait pas peur, voyou. C'est donc que j'ai gardé couteau voyou, c'est devenu couteau voyou, et j'ai fait un freestyle que j'ai posté sur mon Insta pour rigoler, et je vois les gens, ils se sont enflammés sur ce truc-là, éclatés, et je me dis, fais un son. Et tu vois, ça me trotte dans la tête. Après, genre, j'avais des prods qui traînaient dans mon ordi de Geronimo. Il a bossé sur l'album Top Album, enfin sur l'album de Ivic.
Ouais.
Et sur, enfin, il a même bossé sur ses deux albums. Et je lui demande, je fais, est-ce que je peux utiliser cette prod et tout? Je fais une prod et tout sur ce truc-là. J'écris vraiment dessus et je m'enflamme vraiment sur le truc. Après, je fais, vas-y, je vais l'enregistrer. Du coup, je vais chez Youssoufa, qui fait partie aussi du Whoop et tout. Genre, il a son studio chez lui. J'enregistre, il m'aide à me placer et tout. Et je fais, putain, je fais, ouais, j'ai fait un son, il me voit un truc, je m'enflamme, je fais, vas-y, je vais faire le clip. Donc, la blague qui s'arrête jamais, qui va jusqu'au bout. Et je finis par faire le clip. Et la blague, je balance le son et je vois les gens sont à fond dedans. Et là, aujourd'hui, il a Couteau Voyou à 100 000 streams. C'est n'importe quoi. Et l'ultime blague, c'est que j'ai joué au Zénith devant 5000 personnes en slip avec Couteau Voyou, où il y a Matt Pokora qui me donne des conseils sur comment régler les gears, où il y avait tous les autres, plein d'artistes et tout. Je me suis retrouvé avec Haroun et on a filmé les images. Genre, je vais le sortir en mode genre exclu, mais je vais sortir un documentaire sur Couteau Voyou. En mode Couteau Voyou, on a les images et tout sur scène. Et quand je disais aux gens, je vais jouer au Zénith sur scène, les gens ne me croyaient pas. Et je me rappelle, genre, il y a une anecdote, je vais sur scène avec mon couteau et je savais pas si j'avais le droit de ramener un couteau. Donc, je l'ai caché dans mon slip. Genre, parce que j'ai pas de poche. Donc, je cache le truc, j'avais juste une peur de faire le faux mouvement et tac, je me coupe la fesse. Donc, j'ai la lame contre mes fesses et mon slip. Et je monte sur scène et là, je fais, ouais, j'arrive. Et les gens ne savent pas qui je suis parce que j'ai une cagoule. Ils savent pas si je suis premier degré ou si je suis une vanne, parce qu'en plus, comme je suis à fond dedans, je suis sérieux de ouf. Du coup, dans le public, il y avait les gens qui savaient, qui me connaissaient couteau voyou, qui disaient mais non, il a vraiment fait. Les gens qui me connaissaient pas, qui validaient, les mères de famille qui disaient mais non, je ne veux pas que mon enfant assiste à ça. Et du coup, je commence le premier son et je fais mon premier son et tout. Et à un moment, je sors le couteau voyou, je fais mon truc et tout. Et on m'a expliqué qu'à la quand je sors de scène, il y a le vigile qui vient me voir. Il me fait, on a eu une alerte en disant il y a un mec qui a sorti un couteau sur scène. Mais c'est trop marrant. Mais ça, ouais, le couteau voyou a fait la blague et c'est parti d'une petite blague et ça commence, c'est parti jusqu'au zénith sur un délire qui ne s'est pas arrêté.
Pourquoi tu décides de créer un rappeur en slip?
C'est
comme à l'opposé de tous les codes du rap, quoi.
Ouais, en fait, en fait, il y avait un côté ultra genre, wow, ouais. Et un côté très représenté par Caris en mode, genre un côté gros bonhomme,
violent et viril,
genre,
quoi,
ouais, viril et tout. Et ça me faisait rire de me dire prendre ce code-là et de dire de dénaturer ce truc-là et de réduire ça à une cagoule, un slip, des baskets. Un couteau et un texte et de me dire je vais montrer en quelque sorte pas l'absurdité mais en tout cas le montrer un angle ou un m'as-tu vu où tu te dis regardez comment je suis et de déconstruire tout ça de dire vous pouvez ressembler à ça, hein. Et vous êtes le cursus. Et vous êtes pas très loin de couteau voyou, des fois, hein. Genre,
le curseur,
il est pas très, genre, il y a des textes où tu dis, franchement, vous êtes pas loin de moi, hein. Et c'était juste, ouais, essayer de m'amuser avec ça. Et après, en vrai de vrai, j'ai répondu aussi à un fantasme de faire de rentrer dans un personnage comme ça. Mais comme je voulais pas le faire en mode premier degré,
ouais, c'est ça. Qu'en fait, t'aurais pu le faire en mode pas en slip, par exemple, tu vois. Détourner juste les textes et en faire un truc marrant. T'as décidé d'aller jusqu'au bout.
Ah non, ouais, le curseur, je l'ai augmenté à fond. et basta. Mais je pense que c'est la dégaine du c'est la cagoule associée au slip. C'est ça qui m'a buté, qui m'a donné envie d'aller jusqu'au bout du.
Ah, c'est cool.
Du truc, ouais.
La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu as autour de toi un modèle de positif de masculinité? Autour de toi, dans la pop culture, des amis, de la famille, je sais pas.
Le côté droiture, ça vient de mon père.
On n'a pas parlé du tout de ton père.
Ouais, non, mon père, c'est celui qui, quand je parlais de manga, t'as toujours un sensei qui me remotive son élève en deux trucs. Mon père, c'est un peu ça.
Ok.
Par exemple, genre, tous les coups durs, par exemple, je me rappelle, genre, quand j'ai commencé, sur scène, à l'époque, je crois qu'il y avait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu les nouveaux flyers, le nouveau vecteur de communication pour ramener du monde. Mais à l'époque, tu devais sortir dans la rue et aller donner tes flyers. Et moi, à l'époque, j'étais personne, je connaissais, pas de notoriété, rien du tout. Et pour remplir une salle, même de 50 personnes, c'était horrible. Je jouais devant 8 personnes, 4 personnes. C'était très dur. Et à l'époque, ouais, au moment, je commence à peine à augmenter mon taux de rentabilité et tout, on m'annonce qu'on m'enlève mon créneau. Et j'ai badé ce soir-là, comme personne. Et mon père, en une phrase, il m'a remotivé en deux phrases. J'étais remotivé. En gros, il m'a juste dit, regarde ton parcours, comment t'es arrivé là, pourquoi tu pourrais pas continuer, parce que c'est vrai, là où j'étais, d'avoir un créneau et tout, quand j'ai commencé, je me suis jamais dit un jour j'allais jouer sur scène vraiment un spectacle d'une heure que j'aurais écrit moi-même. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, pourquoi je me laisserais défoncer? En gros, il m'a rappelé que j'étais un warrior, parce que ça m'avait vraiment démonté. En plus, ça était arrivé dans la période de mon anniversaire. Du coup, je me suis dit, oh, je commence avec un truc dégueulasse, le truc. Et donc, j'étais vraiment abattu. Et il m'a juste rappelé que, ouais, je suis un warrior. Et du coup, le soir même, j'étais déjà reboosté. Et c'est à partir de là même que après, je suis allé, le mec du Pranzo, il m'a fait une proposition pour m'occuper de moi. Que j'ai Jean-Michel Joyeux du Jamel Comedy Club qui m'a fait une proposition. Et c'est à partir de là, tout s'est débloqué en plus. Une anecdote de droiture avec mon père, c'est... je me rappelle, on partait acheter des jeux vidéo, un jeu vidéo, et j'achète mon jeu vidéo et lui de me remettre je crois c'est 100 euros, le mec me donne 100 euros. Un billet de 100 euros.
Okay.
Et je vais voir mon père, je fais, papa, regarde, il m'a donné un... Il s'est trompé, il m'a donné 100 euros. Ouais. Il me fait, va redonner le billet. Et reprends ton truc. J'ai fait quoi? Hein? D'accord. J'ai redonné le truc. Il me redonne un... Ah, je me suis trompé. Bah, merci. Le mec, il était... j'ai vu dans ses yeux qu'il était choqué de ma démarche. Il m'a donné un billet de 10 euros. Et en mode, ouais, toi, t'es un bon. Et plusieurs semaines, je sais plus combien de temps après, je retourne dans ce magasin pour acheter un jeu vidéo. C'était un jeu de DBZ que j'allais acheter. Il me fait, non, non, j'ai mieux pour toi. Et là, il me sort Pokémon jaune qui n'était pas sorti en France.
Ah.
Il n'y avait que le bleu et la jaune qui étaient sortis. Et juste parce que il avait, ça l'avait marqué, il m'a dit ça, c'est en train de cartonner. C'est un jeu qui est en train de... je sais même pas si le... Ouais, c'est le Pokémon commence à arriver en France. Et il y avait déjà le jaune qui est trouvé. Il me fait, c'est en train de cartonner ce truc. Tiens, il m'offre la cartouche. Elle était en anglais. Et je me rappelle quand je disais, bah moi j'ai Pokémon jaune. Il me fait, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de mythomane et tout. Et j'avais vu que, enfin quand t'es honnête ou droit, bah ça t'amène la confiance ou en tout cas la sympathie des, ça peut t'amener la sympathie des gens. Et ouais, il m'avait fait un cadeau, un truc collector en avance du truc, et ça m'avait marqué ce truc-là. Donc je me suis dit, en tout cas, ouais, mon père il m'a toujours dit. Enfin, au niveau du vol, au niveau de l'honnêteté, de la droiture. Enfin, mon père, ouais, il a vraiment contribué au fait que je parte pas d'un côté obscur de la force. Et sinon, en modèle. Enfin, après, il y a mes acteurs préférés. Il y a de par leurs personnages qu'ils ont incarnés et même dans leur philosophie d'un vie. Mais moi, Will Smith, Jim Carrey, Denzel Washington, c'est des mecs que je regardais. Enfin, tous les personnages qu'ils ont incarnés quand je regardais dans les films, c'est des mecs que je trouvais classe.
Rien à voir pourtant entre Jim Carrey, ouais, Will Smith et Denzel Washington.
Mais dans les personnages, par exemple dans The Mask, quand tu regardes The Mask et tout, le personnage, le mec, il est ultra attachant. Enfin, son personnage, c'est un des personnages les plus attachants. Que je connaisse, genre Denzel Washington dans John Woo, le mec qui se bat pour sauver son fils qui est à l'hôpital, genre pour sauver son fils, il fait carrément il est prêt à tout donner, même à se sacrifier ses valeurs et tout, enfin pour sauver la vie de son fils qui vit une situation injuste. Will Smith, tous les films qu'il a fait, plus Prince de Bel-Air ou il y a des belles valeurs dans les personnages, enfin leurs personnages défendent des belles valeurs et même en grandissant, quand tu regardes la manière dont ils ont leur regard sur le monde, même Jim Carrey par rapport à sa manière de voir le showbiz, et je trouve ça trop intéressant et très intéressant. Et après aussi dans les français, par exemple Alexandre Astier dans son travail, pareil, genre, enfin, pour moi, je le place à la même hauteur que, enfin, avec Alain Chabat, à la même hauteur que Will Smith et tout, genre, parce qu'ils m'ont vraiment apporté, pour moi, c'est vraiment des modèles et tout. Et ouais, pareil, c'est leur rapport, leur vision dans le travail, dans le fait qu'il y a, il y a une sorte de noblesse. Qui fait que moi je trouve ça classe, c'est-à-dire que même genre dans les dessins animés que j'aimais bien, genre par exemple dans les Chevaliers du Zodiac, Saint Seiya avec son rapport par rapport à la des Athéna, genre il y a un côté très chevalier, très très noble. Donc je pense que ça m'a toujours inspiré et ouais, il y a une notion de respect qui revient à chaque fois, de un mélange de respect, de loyauté, de et tout ça, ouais, qui se mélange, qui fait que je pense à ouais ça, inconsciemment, ça m'a imprimé, enfin, ça s'est imprimé dans mon cerveau, je pense.
Ok. Il y a un truc dont je t'ai pas reparlé, c'est de cette petite fille qui t'a dit à 9-10 ans qu'elle aimait pas les noirs.
Ouais.
Comment t'as fait, toi, pour grandir avec ce truc-là? Tu disais que t'en avais pas forcément pris conscience sur
le
moment.
Ouais, non, c'est vraiment plus tard quand je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais raconter sur scène? Et du coup, je fais, oui, il y a ça, et plus, tu pars du, ce que tu te rappelles qui est le plus proche, et après, tu remontes dans le temps, tu vas de plus en plus loin, tu remontes plus loin dans le passé, et je me rends, jusqu'à cet événement-là, et je me dis, wow, en fait, ça, c'était chaud, ça, c'est grave. T'as rien, enfin, c'est de la matière, ça. Et du coup, mais avec du recul, c'est vrai que sur le coup, non, ça m'a pas plus marqué parce que ouais non en fait parce qu'après genre je pense aussi le fait que enfin c'est un mec où je fais ah je suis amoureux donc il y avait ce petit truc là où je passais
ah oui où t'es un peu un cœur d'artichaut
genre ouais c'était ça et jusqu'à ce que je me prenne un stop genre par exemple je disais elle je suis amoureux je regardais plus ailleurs il y a un côté loyauté que t'es pas du tout obligé d'avoir parce que la personne t'a rien promis donc le côté fidèle t'es fidèle à une personne qui s'en fout de ta vie genre c'est un peu bizarre mais ouais non je pense que ce truc là ça m'a marqué mais après j'ai eu des anecdotes assez ah oui il y a un événement que je me rappelle que très très important qui fait que je me suis assumé pendant très longtemps et ça, je l'oublie à chaque fois. Mais je viens de me souvenir qui est très important, c'est que on était en cinquième, je crois, on faisait une sortie avec le collège à Londres. C'est la première fois que j'allais à Londres avec la classe, et il y avait une fille qui était à l'époque beaucoup plus âgée. Je crois elle devait avoir 14 ans. Et je me rappelle, elle est trop trop belle et tout, genre magnifique, et complètement amoureux et tout. Et je me rappelle, elle m'aimait vraiment bien. Genre j'étais son chouchou de tout le truc. À chaque fois, elle venait me voir, elle me faisait des bisous sur la joue, en mode j'étais chouchouté et tout. Et je me rappelle la dernière soirée avant que on reparte et tout, je lui avais acheté un souvenir. On était parti en ville et je lui avais acheté un souvenir, une petite peluche, un porte-clé, et je vais lui donner en cadeau. Elle avait été trop touchée et elle m'a fait un bisou sur la joue. Elle me fait, toi continue comme ça, ça va pas payer, mais un jour tu vas voir toutes les filles, elles vont te tomber dans les bras. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, parce que je me disais aussi, c'est un peu dur. Ah, ok. Mais je me suis dit, attends, si une fille comme ça, elle me dit ça, ouais, peut-être, si je continue comme ça, un jour, peut-être que j'aurais plein de, enfin, des filles aussi bien que cette fille, parce qu'elle était vraiment gentille, elle était belle, etc. Et je me rappelle, ça va me marquer. Je me suis dit, ah, donc, en vrai, être gentil, faut pas forcément être un bad boy pour séduire. Après, genre, faut pas non plus mettre toutes les meufs sur un piédestal parce que ça aide pas, mais je pense que ça m'a en tout cas conforté dans l'idée que t'es pas obligé d'être un vieux gars pour attirer ou pour toucher attirer les filles et tout. Et effectivement aujourd'hui, enfin je me comporte pas comme je me suis jamais comporté comme un gros connard. Comme je disais, ouais, j'ai toujours été honnête dans mes démarches et tout, et j'ai pas menti ou fait des trucs trop mystique pour avoir ce que je voulais. Et mais ouais, c'est le fait que cette fille elle dise ouais continue comme ça, enfin t'es trop mignon, genre un jour tu verras toutes les filles, trucs, je pense que ça m'avait marqué. Je me suis dit cool, genre ça va.
Merci beaucoup Jérémy.
Ben, merci à toi, c'était
est-ce qu'il
cool.
Y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose?
Tu préfères le popcorn sucré ou salé?
Ah putain, et alors?
Salé.
Ah ouais?
Mais même si je suis très sucré.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.